avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Cela fait maintenant 2 semaines que l'opposant congolais est décédé à Bruxelles, en Belgique. Et 2 semaines après sa mort, aucune date n'a encore été fixée pour le retour à Kinshasa de sa dépouille. Il faut dire que sa famille fixe comme préalable la construction d'un mausolée au centre de la capitale congolaise. Mais visiblement, elle ne parvient pas à s'entendre avec les autorités sur le lieu pour ériger ce mausolée. Son parti, l'UDPS, réclame quant à lui la mise en place d'un nouveau gouvernement, conformément, rappelez-vous, à cet accord qui a été signé à la fin du mois de décembre entre l'opposition et le pouvoir. Bref, vous l'avez compris, l'organisation de ces obsèques est devenue un dossier politique. On a envie ce matin de vous entendre sur cette actualité. Vos réactions nous intéressent. Vous êtes déjà nombreux à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Il y a par exemple De Gaulle qui nous dit « Toutes ces revendications et cette surenchère autour de la dépouille de Tshisekedi me paraissent absurdes et dénigrantes. La famille de l'opposant doit montrer davantage de respect envers Étienne Tshisekedi. » Autre point de vue, celui de William. Il estime que le gouvernement n'acceptera pas les réclamations de la famille de Tshisekedi et de son parti. Aucune date ne pourra donc être fixée pour les obsèques tant que le gouvernement ne cédera pas aux exigences de l'opposition. Le débat est donc lancé. On en parle ensemble dans 30 minutes, 33 9 693 693 70. Appelez-nous ici à Paris. Mais d'abord, comme tous les matins, vous le savez, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. On va commencer avec Laïci, qui nous appelle du Bénin. Bonjour Laïci.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs et auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Séoué, très exactement, au nord-est de Cotonou, et vous avez des questions sur le Somaliland.
Exactement Juan Gomez, le Parlement de la Somaliland a autorisé l'installation d'une base navale des Émirats Arabes Unis en Somalie, alors que les Émirats Arabes Unis ont déjà une base navale en Érythrée. Quel est l'intérêt des Émirats Arabes Unis d'installer une base navale en Somalie? Et quel profit la Somalie peut-il tirer pour sa stabilité économique et politique?
Oui, le Somaliland, pour être précis, puisque le Somaliland ne fait plus partie de la Somalie. Cela fait maintenant 25 ans que cette république s'est autoproclamée indépendante. Et le Somaliland souffre de l'isolement que lui impose donc la communauté internationale. Et effectivement, à la question de savoir quel profit peut tirer cette république autoproclamée de ce rapprochement avec les Émirats Arabes Unis est une excellente question. Bonjour Sonia Le Gourielec.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur et enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Alors, après l'Érythrée, les Émirats Arabes Unis vont donc se doter d'une deuxième base navale dans la Corne de l'Afrique. Les Émirats sont sur le point de signer un bail avec les autorités du Somaliland. Quel est l'intérêt pour les Émirats de s'installer dans cette partie du globe?
Alors, c'est vrai que les relations avec les pays du Golfe et la Corne de l'Afrique sont quand même pas récentes, puisqu'il y a énormément de liens culturels, historiques entre ces deux zones. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, on observe que la Corne de l'Afrique se rapproche de plus en plus du Golfe. Et c'est notamment dû au fait qu'en 2015, il me semble, une coalition a été mise en place par l'Arabie Saoudite, une coalition islamique de lutte contre le terrorisme, avec justement en point de mire les combats qui ont lieu au Yémen. Et dans ce cadre, effectivement, les Émirats Arabes Unis ont mis une base à Assab, en Érythrée. Ils ont reconstruit également une piste d'atterrissage pour les avions que l'Arabie Saoudite loue. Mmh. Et effectivement, là, ils se retrouvent aussi à Berbera, après avoir remporté d'ailleurs le marché du port il y a quelques mois face à Bolloré.
Ouais, on va parler justement de ce port qui est aussi stratégique et très important pour le Somaliland. Ça signifie quoi? Que cette future base navale dans le Somaliland va permettre aux Émirats Arabes Unis d'aller bombarder les rebelles au Yémen?
a priori, ils devraient s'en servir dans le cadre du conflit qu'il y a effectivement au Yémen, et on peut imaginer qu'il peut y avoir des rapprochements également avec l'Arabie Saoudite, comme il y a pu y en avoir à Assad. Il faut également voir un petit peu plus loin que l'Arabie Saoudite a signé récemment aussi avec Djibouti pour avoir des installations militaires sur le territoire djiboutien. Donc on a vraiment une installation là au large en face du Yémen, donc c'est une partie, effectivement ils sont juste en face, donc c'est parfait dans le cadre de ce conflit, puisqu'il faut voir au-delà des aspects militaires, il y a aussi des aspects commerciaux et économiques très importants, c'est que les Émirats Arabes Unis se sont un peu éloignés de Djibouti, parce que je vous rappelle qu'en 2003 les Émirats Arabes Unis avaient remporté un marché pour l'extension du port de Djibouti, puis suite à des conflits internes et des procès qui existent entre des opposants djiboutiens soutenus par les Émirats et le régime djiboutien, il y a eu des accros et les relations diplomatiques sont parfois tendues. Et à partir de là, effectivement, les Émirats se sont installés chez les voisins. Et l'Érythrée et les Djibouti n'ont pas des relations très cordiales. Et Somaliland est aussi vu comme un concurrent pour Djibouti, parce que c'est le deuxième port qui permet à l'Éthiopie d'avoir accès à la mer. Donc on peut voir qu'au-delà des aspects militaires, il y a aussi quelque chose de très commercial et économique derrière.
Ouais, il faut dire que Berbera, le port dont vous parlez à l'instant, est tout aussi stratégique que Djibouti, c'est une plaque tournante du trafic maritime pour la région. Pour l'instant, le port de Berbera au Somaliland ronronne, on va dire, par rapport au port de Djibouti, mais l'objectif c'est d'en faire un port concurrent face à celui de Djibouti, c'est d'en faire un des ports incontournables de la sous-région.
Exactement. Oui. L'idée, c'est vraiment de désengorger le trafic qui est très important à Djibouti et de permettre à l'Éthiopie d'avoir un deuxième accès à la mer. Après, c'est vrai que Djibouti a une certaine avance quand même, parce que là, ils ont un port qui fonctionne plutôt bien, ils en ont construit un deuxième. La Chine est en train de construire un port juste à côté d'une base militaire et ils sont en train de construire deux autres ports à Tadjoura, sur le lac Assal. Donc, ils sont en train de prendre une certaine avance quand même que le Somaliland mettra un peu de temps à rattraper.
Bien sûr. Alors, on comprend bien. Donc, nouvelle base navale pour les Émirats Arabes Unis dans le Somaliland, réhabilitation du port de Berbera par les Émirats Arabes Unis également dans le Somaliland. Que gagne le Somaliland en échange de tout cela ?
Alors, pour le Somaliland, c'est très important parce que, comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, le Somaliland est un État autoproclamé, donc qui se déclare indépendant avec son assemblée, son président, sa monnaie, son drapeau, etc. Enfin, tous les attributs d'un État souverain, finalement. Il ne lui manque qu'une chose, c'est la reconnaissance internationale. Et la reconnaissance internationale, elle se fait au niveau bilatéral. Donc, c'est plus ou moins déjà existant avec l'Éthiopie, qui peut avoir une représentation au Somaliland, etc. Mais ça reste très informel, au final. Donc là, c'est très important pour eux, parce que dans leur lutte pour cette reconnaissance, qui est vraiment prioritaire, c'est une forme de reconnaissance, cet accord. Après, il faudra aller plus loin, c'est qu'il va poser des problèmes juridiques. Comment va l'accepter, et c'est déjà le cas, il ne l'accepte pas vraiment, comment va l'accepter le nouveau président de la Somalie ? Il va y avoir un véritable désaccord avec le gouvernement fédéral somalien, qui va dénoncer cet accord. Comment ils peuvent tenir, bon, ça c'est à voir. Mais c'est vrai que la Somalie du Sud a aussi d'autres problèmes sécuritaires à régler avant de s'occuper de ça.
Effectivement, et la reconnaissance du Somaliland, c'est un dossier qui dort dans les tiroirs des chancelleries depuis de nombreuses années. D'ailleurs, l'Union africaine ne veut absolument pas démembrer la Somalie au nom du principe de l'intangibilité des frontières. Donc ce dossier est encore loin d'être réglé. Et puis, autre atout et autre avantage, on va dire, pour le Somaliland, et on va en terminer avec ce point-là, c'est que économiquement, c'est du pain béni, l'arrivée des Émirats Arabes Unis.
Bien sûr, oui. Économiquement, c'est très bon pour eux, déjà pour le développement de leur port, effectivement. Enfin, là, ils renforcent leur lien avec un acteur quand même essentiel. Et donc, oui, c'est primordial pour eux.
Ouais, d'autant que 75% de la population du Somaliland est au chômage. Là, ici, on a répondu à vos questions ?
Exactement, Juan Gomez, merci.
Merci surtout à Sonia Lougourielec, spécialiste de la Corne de l'Afrique, d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'RFI. Ça se passe comme ça, tous les matins, 9h10, 9h30, heure de Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on se fait un plaisir, évidemment, d'y répondre. Adoum, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, vous êtes à N'Djamena, au Tchad.
Oui, c'est vrai.
C'est bien ça. Vous êtes dans un bus, je crois, en ce moment. Donc on va tendre l'oreille en espérant que le réseau ne coupe pas. On vous écoute. Quelles sont vos questions, Adoum ?
Oui, le Parlement israélien a voté une loi dépénalisant les colonies sauvages en Cisjordanie. J'ai trois questions. La première, si la loi n'est pas confirmée par la Cour suprême, est-ce qu'il y aura d'autres recours possibles pour la valider ? La deuxième, qu'est-ce qui est prévu pour la, par la loi pour dédommager les personnes expropriées?
Oui, les personnes expropriées, et elles seront nombreuses, effectivement. Cette loi qui permet donc à Israël de s'approprier de nouvelles terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. Bonjour Alain Dikoff.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche internationale série Sciences Po. Vous publiez dans quelques semaines aux éditions Armand Collin le conflit israélo-palestinien. Il faut d'abord souligner pour nos auditeurs le caractère inédit de cette loi en Israël. Alors certes, la Cisjordanie est occupée depuis 50 ans, mais c'est la première fois que le Parlement israélien, que la Knesset, légifère sur des terres privées palestiniennes en Cisjordanie.
Oui, en effet, c'est tout à fait juste. Et je dirais que la nouveauté, c'est en effet que cette loi se prononce finalement, cette loi dite de régularisation, se prononce en effet sur des terres privées qui ont été, dans le fond, accaparées par des habitants juifs des colonies, donc sans titre légal, et que quelque part elle essaye en tous les cas de valider rétroactivement cet accaparement.
Oui, il faut dire, pour planter bien le décor et pour que les choses soient claires pour tous nos auditeurs, toutes les colonies sont considérées comme illégales par le droit international, mais certaines de ces colonies sont même considérées comme illégales par l'État israélien, puisqu'elles ont été, les Israéliens ont construit sur place sans l'autorisation du gouvernement.
Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est-à-dire ça. Que pour le droit international, il n'y a pas de différence, mais au niveau du droit interne israélien, il y a des colonies dites légales parce qu'elles ont obtenu toutes les autorisations administratives requises, et d'autres qui ne l'ont pas été et qui se sont essentiellement développées au cours des 15 dernières années, puisque depuis 15 ans, le gouvernement n'a pas créé de nouvelles colonies. Donc c'était en quelque sorte pour contourner dans le fond l'interdiction du gouvernement lui-même que des colons ont développé de façon, je dirais, un peu sauvage, en effet, comme on le dit parfois, ces implantations illégales au regard du droit israélien.
Alors, Alain Dikoff, notre auditeur Adoum nous demandait si cette loi n'était pas confirmée par la Cour suprême, est-ce qu'il y a d'autres recours possibles pour la valider? C'est vrai que des ONG, et elles sont nombreuses, ont dit leur intention de saisir la Cour suprême pour faire annuler ce nouveau texte. Quel sera le verdict, selon vous, de la Cour suprême?
Alors c'est difficile à dire, mais cela dit, si on se base sur la jurisprudence de la Cour, elle avait décidé en 1979, donc vous voyez, ça remonte à loin déjà, que les expropriations de terres privées n'étaient possibles que pour des motifs de sécurité. La conséquence de ça, c'est que le gouvernement a, depuis 1979, toujours veillé à ce que les colonies juives soient construites sur des terres publiques et pas sur des terres privées. Donc, si on s'en tient à cette logique-là, en principe, la Knesset devrait considérer que cette loi n'est pas justifiée et donc, en effet, l'invalider. Le problème, c'est que le gouvernement, rien n'empêchera le gouvernement de présenter un texte différent à la Knesset qui, cette fois-ci, pourrait être adopté. Et avec des subterfuges peut-être juridiques, finalement passer un deuxième examen de la Cour suprême.
Donc, si la loi est validée, ça signifie que combien de Palestiniens seront finalement, on va dire, expropriés de leurs propres terres? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a des chiffres, ou en tout cas en hectares, ou en logements, en habitations?
Ça c'est un peu difficile à dire, mais bon, le nombre d'habitations concernées n'est pas gigantesque, hein, puisqu'on parle de quelques milliers, hein, à peu près 4 000-5 000. Mais c'est surtout le principe qui est extrêmement grave, d'abord parce qu'il y a une validation rétroactive, que la loi tente de mettre en œuvre, et surtout parce que ça peut ouvrir évidemment la voie à d'autres expropriations de terres privées. C'est surtout finalement pour le futur qu'il y a un réel danger dans ce type de législation.
Ouais. Adoum nous demandait également que prévoit la loi pour dédommager les Palestiniens expropriés.
Alors, ce qui est prévu par la loi, c'est qu'on donne aux Palestiniens une surface équivalente ailleurs, ou alors, à défaut, qu'on les indemnise à hauteur de 125% de la valeur de la terre. Mmh. Il y a un système de compensation qui est prévu, mais le problème de base, c'est que, dans le fond, au départ, il n'y a pas eu de consentement. des propriétaires palestiniens, c'est-à-dire que les terres ont été occupées sans aucun consentement préalable des propriétaires palestiniens. Donc il y a quelque part un vif dès le départ.
Merci beaucoup Alain Dikoff d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez dans quelques semaines aux éditions Armand Collin, Le conflit israélo-palestinien à Doum. Bonne route, hein, puisque vous êtes dans un bus au Tchad, vous quittiez N'Djamena, direction la province. Donc merci d'écouter RFI dans votre transistor. Il est 9h25 à Paris, il nous reste le temps de prendre une dernière question. Ménard, bonjour.
Bonjour Yann, bonjour.
Vous êtes à Douala au Cameroun, vous avez des questions sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
Tout à fait Antoine. La fois dernière, j'ai suivi sur les antennes de RFI que la première ministre britannique a lancé la procédure du Brexit. Et cependant, Paul Bessler, le patron des patrons britanniques, pense que la Suisse peut aider à améliorer, amortir la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Je veux savoir comment.
Ah, c'est une bonne question. En tout cas, je vois que l'information vous a pas échappé. Hein. C'est vrai que le patron des patrons britanniques a lancé un appel pour une sortie en douceur de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Et il estime, effectivement, que la Suisse peut aider les entreprises britanniques à amortir le Brexit. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Expliquez-nous concrètement en quoi la Suisse peut aider les entreprises britanniques à ce que le divorce avec l'Union européenne se fasse en douceur.
En fait, Paul Dresler n'a pas été très clair dans ce qu'il a dit à ses collègues suisses, mais on peut avancer deux éléments. Hein. Le premier élément, c'est que la Suisse est un des pays à l'intérieur de l'Europe qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui a réussi à négocier avec l'Union européenne des accords bilatéraux, 53 accords pour à ce jour. Et donc, en fait, ça pourrait être pour le Royaume-Uni une façon de négocier ces accords quand il va être sorti de l'Union européenne avec l'Union européenne à 27 et de trouver des accords qui permettent au Royaume-Uni de continuer à avoir un accès facile au marché unique européen. Ça, c'est vraiment la principale condition pour les Britanniques, hein, de garder un accès au grand marché européen. Et de ce point de vue-là, eh bien, la Suisse peut être un bon exemple. Mmh. Et puis, par ailleurs, la Suisse peut peut-être aider de façon plus informelle les Britanniques à négocier avec l'Union européenne, puisque les Suisses ont une expérience justement de négociation d'accords avec l'Union européenne, d'accords bilatéraux. Et enfin, on peut peut-être dire que de toute façon, hein, la Suisse, c'est vraiment... Il y a des points communs importants entre la Suisse et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, donc une certaine distance par rapport à l'Union européenne, le souhait de garder une souveraineté nationale, le souhait de pouvoir commercer librement avec le marché européen, et puis une forte spécialisation dans la finance qui est commune à Londres et à la Suisse, et donc en fait des intérêts pour coopérer entre ces deux pays.
D'accord, donc finalement la Suisse peut effectivement aider les centaines de milliers d'entreprises privées britanniques, des entreprises qui craignent l'arrivée du Brexit.
Ah oui, parce que pour les entreprises, en fait, on quitte une situation qui était tout à fait facile, un accès au marché unique qui représente la moitié des exportations britanniques aujourd'hui, et tout se retrouve à être mis en question. Il faut négocier de nouveaux accords avec l'Union européenne. Donc forcément, pour les entreprises, ça crée une incertitude, hein, ce Brexit. On ne sait pas du tout comment les Européens vont négocier face aux Britanniques. Alors si tout se met en place de la façon la plus simple possible pour les Britanniques, c'est-à-dire, pour faire court, que les Britanniques gardent l'accès au marché européen, eh bien, tout ira bien pour les entreprises britanniques. Si c'est plus difficile, eh bien, il faudra que les entreprises britanniques peut-être espèrent avoir d'autres avantages du côté du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a quand même des atouts pour les entreprises. Hein. Le premier, c'est que le gouvernement britannique a toujours, enfin depuis de nombreuses années et aujourd'hui avec Theresa May, dit qu'il va faire tout ce qu'il faut pour avoir une politique favorable aux entreprises. Oui. Notamment en termes de fiscalité, en termes d'aide de façon générale auprès des entreprises. Donc les entreprises britanniques aujourd'hui sont dans un environnement favorable.
Oui. Enfin, elles attendent de voir les négociations qui devraient commencer dès le mois prochain, puisque Theresa May activera ce fameux article 50 du traité de Lisbonne dès le début du mois de mars. Merci beaucoup Catherine Mathieu, bonne journée à vous.
Du 21 au 30 juillet 2017,